Bonsoir à vous tous. Merci d'être si nombreux. Ça m'impressionne un petit peu, mais ça va passer. Je vais vous parler, comme vous l'avez deviné, de pesticides. J'écris donc ce livre dont parlait Jean-Claude à l'instant avec mon ami François Veillerette il y a maintenant un peu plus de 2 ans. C'est un livre un peu difficile à écrire puisqu'il s'agissait de raconter l'histoire des pesticides essentiellement en France. Je pense qu'on y est parvenu après un périple que je vous raconterai un autre jour. Je vais vous raconter quelques mots sur les pesticides. Il faut bien comprendre une chose qui est toute simple, mais nécessaire, en préambule, c'est que les hommes ont toujours eu à faire face à des ravageurs, des récoltes, depuis les débuts de l'agriculture, et que les ravageurs des récoltes, c'est très ennuyeux, que ce soit des bactéries, des virus, que ce soit des champignons, que ce soit des insectes, des mammifères, des oiseaux, etc., etc. C'est toujours très gênant et les hommes ont perpétuellement cherché des moyens de limiter les dégâts faits aux cultures. C'est normal, c'est évident. Et pour commencer, je voudrais revenir en arrière, à peu près un siècle en arrière, et vous allez comprendre pourquoi je reviens précisément un siècle en arrière. Nous sommes là en 1914, juste avant le grand drame de la Première Guerre mondiale. Et à ce moment de l'histoire, en France, comme ailleurs, on cherche des solutions contre les ravageurs, bien entendu, sans les trouver. Il y a un homme, un Français, un entomologiste, un spécialiste des insectes, qui est un homme à qui j'aurais aimé serrer la main, qui s'appelait Jean Fêteau. Et Jean Fêteau cherchait désespérément des moyens de lutter contre les insectes, notamment, et les ravageurs. Et il avait tenté une expérience entre le 15 mai et le 1er juillet 1914 sur le vignoble d'Oléron, petite île. Il avait choisi l'île parce qu'elle était limitée en surface et que le vignoble lui-même était encore plus limité. Et il avait voulu essayer de tester des méthodes de lutte qu'on appellerait aujourd'hui biologiques contre un insecte très très ravageur de la vigne qui s'appelle l'otiorhinque de la vigne. C'est un insecte qui sort la nuit, qui boulotte les feuilles, donc qui est très très néfaste pour les viticulteurs. Et Jean Fêteau, qu'est-ce qu'il avait imaginé à l'époque? Tout simplement, comme l'insecte sortait essentiellement la nuit, il avait imaginé d'employer une armée de cantonniers et de chômeurs pour attirer l'insecte la nuit avec une lanterne, s'en saisir et les détruire. Mais c'est ce qu'ils ont fait pendant donc 2 mois dans le vignoble d'Oléron. Ils ont ramassé au total à peu près 100 kilos d'insectes adultes. Ça vous dit pas grand-chose, mais en fait, c'est énorme. 100 kilos d'insectes, c'est véritablement énorme. Et malgré ces efforts assez merveilleux d'un certain point de vue, l'otiorhinque de la vigne d'Oléron a survécu à cette attaque massive et contrôlée par Jean Fêteau et ses amis. Et ça, c'est la face, je dirais, un petit peu lumineuse de la lutte contre les ravageurs et les insectes qui s'attaquent aux récoltes. Face lumineuse parce qu'il y a une face obscure, très sombre, très noire, à peu près à la même époque. Là, il faut évoquer une autre figure qui est celle d'un Allemand, Fritz Haber. Fritz Haber, c'est un scientifique assez extraordinaire, très inventif, très ingénieux, tellement ingénieux que dans le courant de l'année 1914, donc alors que la guerre est déjà déclarée, il parvient à convaincre l'état-major allemand. Il est très nationaliste, voire chauvin, et il veut à tout prix que l'Allemagne gagne cette guerre. Et il obtient de l'état-major allemand quelque chose d'incroyable, d'effroyable, de tout à fait nouveau. Il obtient de l'état-major allemand le droit d'utiliser des récipients remplis de chlore pour s'attaquer aux armées ennemies, en l'occurrence les armées anglaises et françaises qui étaient sur le front de Flandre en Belgique. C'est la première attaque par le gaz répertoriée dans l'histoire humaine. C'est d'une certaine façon une attaque aux pesticides parce que dans la composition chimique de ces bonbonnes au chlore dispersées par milliers sur le front de Flandre, dans cette composition chimique, on peut dire qu'il y avait les éléments de base de nombre de pesticides à venir. Donc face lumineuse Jean Fêteau, face très obscure Fritz Haber, Haber qui aura le prix Nobel de chimie en 1920, pour l'année 1918, non pas pour les gaz de combat, je m'empresse de le préciser, mais pour une découverte qu'il avait faite en 1904 qui portait sur l'ammoniac. Si je vous raconte tout ça, c'est tout simplement parce que il fallait bien trouver une solution pour essayer de limiter les dégâts occasionnés par les ravageurs. Ça ne fait aucun doute. dans l'entre-deux-guerres, entre, disons, le 1918 et 1939, en France, il y a beaucoup d'agronomes qui ont cherché des solutions après Jean Fêteau et dans la lignée de Jean Fêteau. Malheureusement, ils butaient le plus souvent sur des obstacles infranchissables. Et l'exemple le plus évident, celui qui vous parlera sans doute le plus, c'est celui de du doryphore, un coléoptère qui a la mauvaise manie de s'attaquer aux plants de pommes de terre. Or, dans l'entre-deux-guerres, la pomme de terre, beaucoup plus encore qu'aujourd'hui, était vraiment un aliment national, un aliment de base. Et les agronomes cherchaient des solutions et n'en ont pas trouvé. Comme on le sait, le doryphore a résisté à toutes les attaques. Et cet entre-deux-guerres a été un moment de doute assez affreux chez les agronomes et chez les scientifiques qui cherchaient des solutions, parce qu'ils n'en trouvaient pas, tout simplement. Il s'est passé au début de la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1939, et puis dans tout le courant de la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé ce qu'il faut bien appeler un miracle, même si le mot vous paraîtra peut-être osé. Il s'est passé un miracle essentiellement aux États-Unis, en partie dans l'Allemagne nazie. Il y a des laboratoires de recherche menés par des scientifiques de très grande valeur qui ont inventé des nouvelles molécules chimiques. Des molécules chimiques qui n'avaient jamais existé dans la nature, qui n'avaient jamais été assemblées. Eh bien, il y a des laboratoires qui ont réussi à synthétiser des produits tout à fait nouveaux, révolutionnaires. J'en cite deux pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Le premier, c'est le DDT, dont on a énormément parlé, qui est interdit en France et en Occident, mais qui continue à être très, très massivement utilisé dans les pays du Sud et jusqu'en Russie. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un avant d'intervenir. Et donc, ces laboratoires, essentiellement américains, mais aussi nazis, mettent au point ces molécules, DDT, HCH. HCH, c'est un autre insecticide très puissant. La guerre se passe là-dessus. Et à la sortie de la guerre, eh bien, ces molécules chimiques, évidemment, se répandent comme autant de merveilles, parce qu'en vérité, ce sont des merveilles. Elles permettent de combattre avec une efficacité inouïe, qu'on n'avait jamais vue encore, les ravageurs des récoltes, notamment les insectes. Donc tout le monde applaudit ces découvertes. Aux États-Unis, elles sont employées massivement. Il y a des images extraordinaires, des photos d'archives qui montrent dès 1939, dès la première synthèse du DDT, on voit des photos de plages proches de New York où des gosses sautent et cabriolent dans des nuages de DDT. Parce que c'est moderne, parce que ça vient de sortir, parce que c'est merveilleux, parce que ça annonce des lendemains qui chantent. Et en France, la sortie de la guerre, pour ceux qui l'ont vécu dans cette salle, il y en a quand même quelques-uns, la sortie de la guerre a été une période effroyable de famine, d'angoisse mortelle pour beaucoup de familles. La guerre avait totalement désorganisé la production agricole. Il y avait eu le problème des prisonniers de guerre, dont beaucoup étaient des paysans et qui n'étaient pas encore revenus. Il y avait une situation vraiment très tragique, il faut le dire. On l'a oublié, bien sûr, mais elle était tragique en 1945. Il y a eu des tickets de rationnement jusqu'en 1949. Et évidemment, la question des ravageurs des récoltes se posait avec une acuité tout à fait particulière. Alors, ces fameuses molécules chimiques, le DDT, le HCH et bien d'autres. Évidemment, à cette époque de l'histoire, en France, tout le monde applaudit. Et j'imagine que si j'avais vécu à cette époque-là, j'aurais applaudi comme tout le monde, parce que les effets, je vous l'ai dit et je le répète, les effets de ces molécules, qui n'avaient jamais été employées pour cause puisqu'elles n'existaient pas, les effets de ces molécules sont vraiment étonnants. Alors, à ce moment de l'histoire, il y a une sorte d'unanimité nationale. Tout le monde est d'accord, que ce soit les scientifiques, que ce soit les responsables politiques, administratifs, de droite, de gauche, tout le monde est absolument d'accord pour applaudir à ces nouvelles merveilles. Il n'y a aucune raison de douter ni de leur efficacité, ni de leur innocuité. Et il y a un personnage qui émerge en 1945 en France, qui est un personnage prodigieux, à mon avis, très discutable, mais prodigieux néanmoins, qui s'appelle Fernand Villaume. Fernand Villaume, selon moi, enfin d'après l'histoire que j'ai reconstituée, on peut dire de lui que c'est le premier lobbyiste de l'histoire de l'industrie des pesticides en France. C'est un ingénieur agronome, C'est un homme qui a fréquenté Fétot dans l'entre-deux-guerres et puis bien d'autres agronomes, qui est entré dans l'industrie chimique naissante chez Pechiney dans les années 30 et qui est obsédé, à juste titre bien sûr, par l'idée de lutter contre les ravageurs des récoltes. Alors il sort de la guerre, il est ingénieur agronome, il travaille pour l'industrie, Pechiney, et on lui apporte sur un plateau d'argent ces fameuses molécules nouvelles. Qu'est-ce qu'il fait, Villaume ? Il crée une structure inouïe, dont le titre dit tout. Ça s'appelle le comité de propagande pour l'amélioration des cultures. Pardon, le comité de propagande pour l'amélioration des cultures, c'est l'expression de l'époque. À cette époque, en 1945, l'utilisation du mot de propagande ne gêne personne. Donc c'est l'intitulé exact de ce comité créé par Fernand Villaume. Dans la foulée, il crée un journal qui existe toujours, qui s'appelle Phytoma, et qui est un journal depuis les origines, qui est à la gloire, on va dire, des pesticides. Et Villaume est un homme extrêmement entreprenant, et je voudrais dire qu'il est, il n'est pas loin d'être génial, en fait, parce que dans la foulée de 1945 et des restrictions, il crée une structure autour de Phytoma et autour de son comité de propagande. Il crée une structure qui va rassembler, on va dire, la quasi-totalité des personnalités, des acteurs des pesticides dans la France de l'époque. À cette époque, c'est très peu de gens, hein. C'est peut-être 100, 150, 200, 300 personnes au plus qui s'intéressent de près à la question des pesticides. Et Villaume a l'intelligence tout à fait incomparable de rassembler tous ces gens, de les réunir notamment dans le cadre du journal Phytoma, mais pas seulement. Il organise des colloques, des conférences, des réunions, des banquets aussi, il faut le dire, des banquets, des lieux où on boit, où on se tape sur l'épaule, où on apprend à se connaître. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette structure qui explique tout le reste, je vous le dis tout de suite. Cette structure donc rassemble d'emblée l'industrie, avec Villaume, Pechiney et d'autres qui vont se joindre à l'aventure, rassemble les agronomes de l'avant-guerre, ceux qui s'étaient, qui s'étaient cassé le nez sur la lutte contre les ravageurs, les principaux responsables de l'administration de l'agriculture. Les ministères de l'Agriculture constitués donc envoient ses meilleurs représentants dans cette structure inventée par Fernand Villaume. Et enfin, elle regroupe également les cadres principaux de l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA, qui naît en 1946, donc l'année d'après. Et bien sûr, les paysans les plus entreprenants, les paysans qu'on peut considérer à l'époque comme modèles. Alors, il crée une structure que, dans le livre que j'écris avec François Veyrette, on a appelé, et c'est un peu offensant, je le reconnais, mais on a appelé cette structure, on a caractérisé cette structure comme étant paratotalitaire. Alors, c'est un mot un peu offensant, je le répète, mais il me paraît juste parce que, au fond, Villaume a réussi cet exploit de réunir la totalité des acteurs de la question des pesticides dans des structures uniques où tout le monde se fréquente, où tout le monde se connaît, où tout le monde s'apprécie, où tout le monde se tape sur l'épaule, où tout le monde a un service à rendre à l'autre. Et cette création-là, qui est de bonne foi au point de départ, va expliquer une grande partie de la suite des événements. Alors, évidemment, il y a une période d'euphorie, une période de totale bonne foi, je dirais, qui va durer, disons, de 1945 à 1962. 1962, vous allez comprendre très vite pourquoi. Période pendant laquelle, disons, tous ces acteurs sont de bonne foi et pensent sincèrement, je crois, qu'ils ont mis au point des méthodes infaillibles pour lutter contre les pesticides. Il y a un personnage qu'il ne faut pas oublier à côté de Villaume, parce qu'il a joué un rôle essentiel dans toute cette histoire. C'est pratiquement le fondateur de l'INRA en France. C'est un homme valeureux, hein, Jean Bustaret, qui est décédé aujourd'hui. Mais Jean Bustaret, qui croyait comme les croisés croyaient aux pesticides, Jean Bustaret avait accepté, sur l'invitation de Villaume, d'être le premier président, figurez-vous, d'une structure que tout le monde a oubliée, mais que j'ai étudiée d'assez près, et qui s'appelait COLUMA. COLUMA, ça veut dire Comité de lutte contre les mauvaises herbes. Et en fait, ce COLUMA a été le premier instrument de diffusion des herbicides chimiques en France. Et Bustaret, qui a été directeur général de l'INRA, de l'Institut national de recherche agronomique, institut public, payé par des fonds publics, eh bien Jean Bustaret, grand agronome par ailleurs, a accepté de présider cet organisme qui était entièrement au service de l'industrie privée. On assiste donc dans ce domaine à une sorte de confusion qui va se révéler tragique entre l'intérêt public, notre intérêt à nous, et l'intérêt privé, l'intérêt des industriels, qui peut coïncider, mais qui peut aussi se dissocier. Donc, bonne foi, on va dire jusqu'en 1962, avec des acteurs de plus en plus sûrs d'eux, de plus en plus actifs, de plus en plus entreprenants, de plus en plus riches aussi, parce que l'industrie, évidemment, croît en proportion de l'usage des pesticides. En 1962, il y a un coup de tonnerre qui explose, pas en France, mais aux États-Unis. Il y a un livre qui paraît, un livre prophétique extraordinaire, que j'ai eu le plaisir de lire plusieurs fois, qui s'appelle « Printemps silencieux ». « Printemps silencieux », c'est le livre d'une Américaine qui s'appelle Rachel Carson. Et il s'appelle « Printemps silencieux » tout simplement parce que elle raconte dans ce livre, pour la première fois à ma connaissance dans l'histoire, les ravages, les effets des pesticides sur les milieux vivants et notamment sur les oiseaux, et notamment le DDT. Alors, c'est véritablement un coup de tonnerre parce que jusque-là, en fait, il y a bien eu quelques alertes, mais elles ont été très vite oubliées. Le livre de Rachel Carson provoque une véritable commotion aux États-Unis et les industries, notamment le groupe Monsanto, qui aujourd'hui est bien connu, mais notamment Monsanto, l'industrie en général et Monsanto en particulier s'en prennent à Rachel Carson et tentent de la discréditer par des moyens que je qualifierais de crapuleux, en prétendant que cette femme est folle, que c'est une vieille folle, que c'est un agent du communisme, qu'elle est payée par le KGB. Je n'invente rien, c'est toutes sortes d'accusations qui ont vraiment été portées à l'époque aux États-Unis contre elle. Et le livre est traduit l'année suivante en France, en 1963, avec une préface tout à fait passionnante d'un homme qui, à l'époque, est directeur du Muséum national d'histoire naturelle, Roger Haim. Le livre a aussi un bel écho en France. Et de la même façon qu'aux États-Unis, à l'échelle de la France, Rachel Carson est traitée de vieille folle et de vieille cinglée qui ne sait rien, qui ne connaît rien à l'histoire des pesticides. C'est une date très très importante parce que jusqu'à cet instant, on peut considérer que les acteurs du dossier pensent agir pour le bien commun. À partir de cette date, moi personnellement, j'estime qu'ils savent et qu'ils savent de plus en plus qu'il y a des problèmes. Tout simplement, ils refusent de les reconnaître. Ça, c'est un grand classique dans le domaine industriel. Quand les problèmes surgissent, finalement, les responsables s'enfuient en avant, s'engagent dans une fuite en avant parce que tout simplement, aborder le problème de front, évidemment, nuirait très directement à leurs intérêts. Alors, on est en 1962-1963, c'est une période, c'est le début du trouble, mais le système créé par Vilhomme, c'est-à-dire ce système où finalement les contrôlés, les contrôleurs se tiennent par la barbichette, où il n'y a pas d'espace pour la critique, où il n'y a pas d'espace pour la société, où il n'y a pas d'espace pour l'interrogation, ben, ce système continue dans une confusion des genres que vous n'imaginez pas. C'est-à-dire qu'à cette époque, en France, les pesticides sont mis en vente pratiquement sans contrôle. Ce sont les industriels qui décident de ce qui va être mis sur le marché en fonction de leurs intérêts du moment. C'est une période vraiment extrêmement trouble, qui a duré pratiquement jusqu'à nos jours, vous allez le voir. En tout cas, la première critique, en dehors de Rachel Carson, la première critique publique des dangers des pesticides vient de deux sources principalement. Il y a d'une part les événements de 1968 qui font naître une critique, on va dire, écologiste du dossier des pesticides. Ça, c'est une première source importante. La deuxième source, c'est les scientifiques. Il y a un congrès scientifique qui se tient à Stockholm en 1969. Et là, pour la première fois dans l'histoire, des scientifiques, du haut de leur tribune et du haut de leur savoir de scientifiques, mettent en cause le DDT précisément et unissent leurs efforts pour dénoncer les dangers du DDT. Évidemment, c'est un énorme coup de tonnerre retentissant, mais l'industrie des pesticides est redoutablement enquistée dans l'appareil d'État, comme je vous l'ai dit, notamment au ministère de l'Agriculture. Et en fait, à partir de ce moment-là, l'industrie des pesticides va créer des structures, des pseudopodes, des comités ad hoc pour tromper l'opinion. Je vais vite, mais c'est vraiment ça l'idée, et c'est pas seulement l'idée, c'est la réalité. L'industrie des pesticides imagine des trucs pour désinformer et pour gagner du temps, de façon à ce que la société soit mal informée ou pas du tout informée. Et par exemple, en 1970, donc l'année qui suit le fameux congrès de Stockholm sur le DDT, l'industrie des pesticides française organise un congrès qui a les apparences d'un congrès scientifique à Paris, mais qui est en fait, je vous le dis exactement comme je l'écris, qui est un congrès truqué. C'est très grave, mais c'est un fait, un congrès truqué, au cours duquel on va entendre toutes sortes de sornettes sur les pesticides, mais avec la caution, il faut le dire, de scientifiques, et de scientifiques importants, notamment de l'INRA. Ce congrès, il faut en dire un mot de plus, parce qu'en fait, le principal organisateur de ce congrès a joué un rôle énorme en France dans toutes ces années-là, entre 1960 et 1995, on va dire, pendant 35 ans. Marcel Valta, c'est son nom, Marcel Valta, a joué un rôle crucial auprès des industriels. C'était un homme, c'était un lobbyiste, il avait un cabinet de conseil, un cabinet de lobbying, et c'était un homme qui s'était spécialisé dans des méthodes redoutables de désinformation de l'opinion. C'est l'homme qui a permis, par exemple, à l'industrie de l'amiante, qui tue des milliers de personnes chaque année en France, c'est l'homme qui a permis à cette industrie de l'amiante de gagner bien 20 ans sur l'interdiction définitive qui a été prononcée en 1997 en France. Sans Marcel Valta, il est hautement probable que l'industrie de l'amiante aurait été interdite avant, et il est donc hautement probable qu'un certain nombre de victimes auraient été épargnées. Eh bien, c'est Marcel Valta qui est embauché par l'industrie des pesticides pour organiser ce congrès truqué qui se déroule à Paris en 1970, en grande pompe, avec l'orchestre de la garde républicaine qui donne un concert pour l'ouverture du colloque. Vous voyez le genre, une très grosse opération de désinformation. Après ça, quoi vous dire? Est-ce que ce système a perduré? Est-ce que ce système de consanguinité entre les intérêts publics et les intérêts privés a perduré? Malheureusement, la réponse est oui. Oui. Oui et oui, ce que nous avons démontré avec François Veyrette dans le livre, en citant des noms très précisément, en remontant des pistes, en travaillant, ce que nous avons démontré, c'est que le système d'homologation, c'est-à-dire le système qui permet aux pesticides d'être vendus sur le marché, d'être épandus dans les champs, d'être, disons, considérés comme légaux, ce système a été jusqu'à nos jours un système, pardonnez-moi le mot, pourri par la logique commerciale et industrielle, celle qui avait été imaginée au départ par Fernand Villaume. La proximité extrême entre responsables de l'administration de l'agriculture, industriels, et puis experts soi-disant indépendants, mais en vérité travaillant directement ou indirectement pour l'industrie, cette proximité a fait que jusqu'à aujourd'hui, je dis bien jusqu'à aujourd'hui, les industriels ont fait la loi en France dans le domaine des pesticides et ont pu, sans guère de frein, commercialiser massivement des pesticides. Il y a des exemples dont vous avez entendu parler, je ne vais pas y insister, je ne vais pas prendre toute la soirée pour ça. Il y a des exemples dont vous avez fatalement entendu parler dans la région. Il y a l'exemple du gaucho et du régent, qui sont des insecticides extrêmement puissants, qui ont été utilisés sur les grandes cultures, et dont les apiculteurs se sont plaints très vite, parce qu'ils constataient des mortalités, des surmortalités gigantesques dans leurs ruchers, des pertes massives d'abeilles ou des espèces de maladies, de désorientation de leurs abeilles. Cette affaire du gaucho est une affaire incroyable quand on la connaît dans le détail. On y consacre un grand chapitre dans notre livre parce que vraiment c'est une affaire incroyable qui dure 10 ans, figurez-vous, entre la première alerte sérieuse et l'interdiction qui n'est pas véritablement définitive du reste. Mais on va dire entre la première alerte et l'interdiction, il s'est écoulé 10 années. 10 années pendant lesquelles l'industriel et ses alliés, il faut bien parler d'alliés dans l'administration publique française, au ministère de l'Agriculture, et dans une administration en particulier qui s'appelle la Direction Générale de l'Alimentation, la DGAL, eh bien, pendant 10 années, on a assisté à une espèce de confrontation parfaitement inepte entre des apiculteurs qui prouvaient constamment par des exemples de terrain que ces produits chimiques tuent à leurs abeilles, et des industriels qui niaient l'évidence avec la complicité la plus évidente de l'administration de notre République française. C'est véritablement une situation très grave. Il y a un autre exemple moins connu, mais qui est aussi douloureux, qui concerne la Guadeloupe, enfin les Antilles françaises en général, mais la Guadeloupe en particulier, où un insecticide épouvantable, chlordécone, qui est un insecticide épouvantable, dont la rémanence, c'est un mot technique, la rémanence, ça signifie le temps pendant lequel la molécule reste active. La rémanence du chlordécone peut atteindre, m'a-t-on dit, je parle de scientifiques, hein, c'est pas le voisin de palier, c'est des scientifiques qui me l'ont dit, la rémanence du chlordécone dans les sols de Guadeloupe peut atteindre 400 ans, 4 siècles. 4 siècles. Et il y a environ 4000 hectares de bananeraies en Guadeloupe qui sont horriblement pollués par le chlordécone. Or, cet insecticide avait été interdit très tôt aux États-Unis, et en vérité, on peut dire que tout le monde, je dis bien tout le monde, était au courant de la dangerosité extrême du chlordécone au moment où il a été autorisé par des ruses et des contorsions et des dérogations ministérielles qui impliquent plusieurs ministres de la culture français, tant de gauche que de droite. Parce que s'il y a une vérité dans cette histoire de pesticides, c'est bien que toutes ces affaires dont je vous parle se sont produites aussi bien sous des gouvernements de gauche que sous des gouvernements de droite. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Donc gaucho, régent, chlordécone, la situation aujourd'hui est très simple, vraiment très simple. Il y a des pesticides partout. On retrouve des pesticides rigoureusement partout. Il y a des pesticides dans la rosée du matin chez vous, très probablement. Il y a des pesticides dans l'eau de pluie, parce que les pesticides, évidemment, ne se baladent. Quand vous épandez des pesticides sur un champ, la plus grande part, évidemment, se répand sur le sol, mais une partie repart dans l'atmosphère sous forme de nuages aérosols qui circulent avec les nuages et qui peuvent se répandre avec les eaux de pluie à 100 km de là. Il y a des analyses officielles qui montrent que dans des villes comme Lille, comme Paris, comme Rennes, Brest, je crois, Lyon, on retrouve constamment des traces de molécules pesticides dans les eaux de pluie. C'est-à-dire, vous vous baladez dans une rue d'une ville, vous n'avez aucune idée de ce qui vous tombe sur la tête, et malheureusement, il vous tombe des molécules pesticides sur la tête. Il y en a évidemment dans les sols, ça va de soi, mais donc dans ce qui porte les sols. Dans ce que portent les sols, pardon, les légumes, les fruits, les aliments, on en retrouve donc dans les aliments. Il y en a dans pratiquement tous les prélèvements d'eau qui sont faits en France aujourd'hui, on retrouve des pesticides. Pas un, pas cinq, souvent 10, 20, 30, 50, 60, 80 différents dans des prélèvements d'eau. Aujourd'hui, quelqu'un me le précisera peut-être, mais de mémoire, je pense qu'on retrouve des pesticides dans plus que les deux tiers des prélèvements qui sont faits en rivière. Non, plus que pratiquement 100% dans les prélèvements en rivière et peut-être les deux tiers dans les prélèvements dans les nappes souterraines. Tout ça pour vous dire que les pesticides, il y en a partout. Dans un pays comme la France, il y en a dans le monde entier, parce que je vous l'ai dit, ça circule, on en retrouve aussi bien en Arctique que dans la forêt amazonienne, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, c'est vrai. Et si on faisait une analyse de sang, et je suis navré de vous le dire, mais c'est comme ça, c'est la vérité, et je crois que la vérité doit être dite, hein. En tout cas, moi, je me promets de la dire partout où je passe. Si on fait une analyse de sang sur vous, vous tous qui êtes dans cette salle, et moi compris, bien entendu, on trouvera fatalement la trace de plusieurs molécules pesticides. Je vous dis ça parce que ça a été fait. Ça a été fait aux États-Unis, ça a été fait en France. Il y a un ancien ministre de l'écologie, Serge Le Pelletier, qui s'était prêté à l'exercice il y a quelques années. On a découvert sur lui une quantité, des dizaines et des dizaines de substances chimiques toxiques, parmi lesquelles de nombreux pesticides. Donc on en trouve, malheureusement, l'expérience a été faite, et c'est peut-être que Charles Sultan pourra nous en dire plus tout à l'heure, mais on en trouve dans le sang contenu dans le cordon ombilical des nouveau-nés. Donc véritablement, on peut parler d'un phénomène, me semble-t-il, d'empoisonnement universel. C'est ça l'image qui me vient spontanément quand je pense à l'affaire des pesticides. Je me dis que nous sommes les victimes, plus ou moins consentantes, d'un empoisonnement universel, parce que les pesticides, je n'y insiste pas, je pense que tout le monde ici le sait, il existe des centaines, peut-être même aujourd'hui des milliers d'études scientifiques de très haut niveau, publiées dans les meilleures études, dans les meilleures revues scientifiques du monde, qui prouvent des liens entre une exposition aux pesticides, même à des doses infinitésimales, et des problèmes de santé publique gravissimes, des problèmes de maladies neurodégénératives, des problèmes du système nerveux central, des problèmes endocriniens, des problèmes de fertilité, des problèmes de cancer. Bref, il est certain, je dis bien, il est certain que les pesticides, même à des doses infinitésimales, ont des effets délétères sur la santé des organismes vivants et donc évidemment sur la santé des humains. Étant entendu que ces pesticides se retrouvent partout, la question qui se pose, enfin que je nous pose, c'est de savoir ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire. Moi, personnellement, même si je suis un doux rêveur, je me déclare nettement et sans détour pour un monde sans pesticides. Je ne suis pas pour le compromis avec une industrie que je juge aujourd'hui, je vous le dis très franchement, criminelle. Cette industrie me paraît criminelle parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle sait qu'il y a des effets tragiques pour la santé humaine. Elle continue son travail comme si de rien n'était. Elle est donc criminelle à mes yeux. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'on peut passer un compromis avec une industrie de cette nature, compte tenu des effets qu'on voit surgir partout, notamment chez les enfants maintenant? Non. Selon moi, non. Selon moi, il faut, pour commencer, rêver d'un monde sans pesticides et très rapidement trouver des solutions, sous la forme sans doute d'une période de transition, aussi courte que possible, période de transition pendant laquelle on se débarrasserait totalement, je dis bien totalement, des pesticides de synthèse, car les pesticides de synthèse ont fait la preuve de leur extrême dangerosité pour nous tous. L'humanité s'est passée de ces pesticides de synthèse pendant quelques milliers d'années. Il est hautement probable qu'elle peut s'en passer à l'avenir, et ce n'est pas moi qui le dis. Sachez, parce que c'est très important, cette information est très peu passée en public, mais c'est une information certaine que je ne suis pas en train d'inventer pour le plaisir. En mai 2007, donc il y a environ 2 ans et demi, il y a eu un colloque formidable à Rome, organisé par la FAO. La FAO, c'est l'agence de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation. C'est une sorte de grande bureaucratie internationale. Eh bien, la FAO a organisé un colloque avec des spécialistes venus du monde entier, un colloque exclusivement consacré à la question de l'agriculture biologique. Vous savez tous, j'imagine, que, et beaucoup continuent à penser que l'agriculture biologique, c'est une agriculture de niche qui concerne les gens qui ont de l'argent ou les gens qui tiennent énormément à leur santé. C'est pas vraiment ça. En tout cas, selon moi, ça n'est plus vraiment ça. Ce colloque de la FAO a conclu ses travaux en disant que l'agriculture biologique était parfaitement capable de nourrir la totalité de l'humanité. Je répète, que l'agriculture biologique était parfaitement capable de nourrir la totalité de l'humanité à un coût écologique évidemment incomparablement moindre. Alors ensuite, il y a eu des discussions, je vous passe les détails, on en reparlera peut-être tout à l'heure dans le cadre de la discussion, mais sachez qu'il s'est quand même produit cet événement, qui pour moi est un événement majeur, un événement fondateur, au cours duquel des spécialistes venus du monde entier ont dit, cette chose très importante, qu'on peut se passer de pesticides de synthèse et qu'on peut se tourner vers une agriculture totalement différente. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, il va de soi que je ne peux qu'appeler à une sorte de révolte contre un système qui est devenu incontrôlable, qui échappe au contrôle social. Tout ce que je vous ai raconté depuis le début, c'est l'histoire finalement d'une industrie qui peu à peu échappe au contrôle social, qui échappe au regard de la société sur elle. Et la question, jusqu'à quand est-ce que nous allons tolérer ça? Jusqu'à quand est-ce que nous allons supporter l'idée qu'en buvant de l'eau ou qu'en mangeant du pain ou en mangeant des fruits ou des légumes, on s'intoxique? Voilà ce que je voulais vous dire, et c'est tout. Et je vous remercie beaucoup.